Vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez l'émission Au fil des notes. Bonjour chers auditeurs, bonjour Marie.
Bonjour Valérie.
Au fil des notes propose aujourd'hui une émission sur le thème de Giuseppe Verdi. Pour ce faire, nous avons invité un passionné de ce compositeur qui va avec Marie, qui l'est tout autant, nous raconter son histoire et tenter de nous faire aimer Verdi et l'opéra. Cet invité, c'est Régis Boinet. Bonjour Régis.
Bonjour.
Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous êtes passionné de musique classique et vous avez été président de la chorale à cœur joie, bien connue à Bourgoin-Jallieu, durant 7 ans. Vous chantez depuis votre tendre enfance et après un petit break, vous avez recommencé à l'âge environ de 35 ans. Jusqu'à ce jour, vous n'avez pas stoppé votre joie de chanter. Actuellement, vous chantez au chœur de la Faculté catholique de Lyon et vous travaillez une œuvre belle, mais difficile, m'avez-vous dit, qui est la messe en ré de Dvorak. Du travail en perspective pour vous, Régis, encore ?
Du travail, mais beaucoup de plaisir, aussi. Beaucoup de plaisir, et avant tout le plaisir.
Et avant tout le plaisir, et encore du plaisir. C'est bien ce qui nous importe avec le classique. Mais aujourd'hui, nous allons donc parler de Giuseppe Verdi. C'est un compositeur romantique italien. Il est né le 10 octobre 1813 à Roncole, proche de Busseto, dans la province de Parme, et il est mort le 27 janvier 1901 à Milan. Vous dites de lui, Régis, que c'est un génie de l'opéra moderne. Alors là, je suis curieuse d'en connaître un petit peu plus.
Génie, c'est un mot faible. C'est,
carrément.
c'est inégalable, je crois, Verdi. Je crois qu'il faut un peu le restituer dans le temps. Mm-hmm. Verdi est donc né la même année que Wagner. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça.
Ce qui est un signe.
Donc, et pour parler de Verdi, je crois qu'il faut également parler de ses dates par rapport aux autres compositeurs. Donc, Bach est mort en 1750, mm-hmm. Mozart est mort lui aussi en 1791 et Beethoven en 1827. On peut dire donc que l'héritage est là, à portée de la main de Verdi, ou plutôt à portée de l'oreille de Verdi.
L'oreille, oui. Et de ses doigts.
Et de ses doigts, effectivement. Bach, avec ses deux opéras d'église, si on peut appeler les passions selon saint Jean et selon saint Matthieu comme cela. Mozart avec son Don Giovanni qui annonce l'opéra du 19e siècle. Et enfin Beethoven, dont aujourd'hui encore on n'a pas fini de découvrir l'étonnante modernité. Mais il faudrait aussi citer Rossini, 1792-1868, Bellini, 1801-1835, et Donizetti, 1797 et 1848, qui, à eux trois, sont un peu les vrais pères, les pères spirituels de Verdi, alors qu'ils sont quasiment ses contemporains. Et puis, peu connu, mais ô combien important pour la musique du siècle de Verdi, Carl Maria von Weber, 1786-1826, qui a composé le Freischütz, dans lequel on trouve vraiment la préfiguration de l'opéra wagnérien, et dont certainement s'est inspiré Verdi, et je pense notamment à un opéra de la fin de vie de Verdi, qui est Othello, et on y trouve un certain nombre de réminiscences de ce Freischütz.
Alors, pour revenir au personnage, Régis, Giuseppe Verdi montre dès son enfance des talents musicaux que ses parents non musiciens pourtant découvrent très vite. Bien que Verdi l'ait certainement ignoré musicalement, l'enfant n'était pas né de rien comme il se laissait à le laisser penser. On trouve en effet au XVIIIe siècle dans la branche maternelle de la famille Outini deux cantatrices, un ténor, contemporain et connu de Mozart, et un compositeur, Francesco Antonio Outini, 1723-1795. Sa première formation musicale lui est donnée par l'organiste Pietro Baistrocchi sur les orgues de Saint-Michel-Archange de Roncole. Et en 1821, ses parents font l'acquisition d'une épinette, petit clavecin portable destiné aux jeunes gens qui souhaitaient apprendre la musique.
Parce que c'était plus simple, c'était plus pratique de se déplacer avec ça, j'imagine.
Certainement, oui, et puis il pouvait peut-être travailler chez lui plutôt que d'aller à l'église pour travailler son orgue.
Parce que, faut le dire, la musique, c'est un travail de tous les jours.
À l'âge de 10 ans, il est capable de tenir l'orgue de l'église. Il avait un caractère paisible mais affirmé. On ne dérange pas impunément le petit Verdi dans son écoute de la musique d'orgue.
Déjà petit.
Et Don Mazzini, le curé du village, en fait les frais, qui s'entend menacer dans un parfait dialecte d'un furieux « Que Dieu te foudroie !»« Que Dio ti fulmina !» après avoir envoyé rouler le garçon en bas de l'hôtel parce que les burettes n'arrivaient pas. 8 ans plus tard, le prêtre est effectivement foudroyé. Verdi, à 7 ans, s'est déjà approprié le terme de malédiction.
Eh bien voilà, ça c'est fait. En tous les cas, ça a été quand même une période très fructueuse en termes de naissance de grands compositeurs. Enfin, c'est quand même une période où il y a eu... plus de compositeurs qui se sont mis à écrire, non ?
C'est vraiment étonnant, cette période. Et surtout, la diversité des genres musicaux. Ouais. Quand on voit les compositions de Wagner, les compositions de Verdi,
c'est très différent.
C'est très différent, au point d'ailleurs que les cantatrices ne peuvent pas chanter généralement, sauf exception.
Elles chantent l'un ou l'autre.
Verdi et Wagner, on chante l'un ou l'autre. C'est vraiment spécifique.
D'accord. On a eu beaucoup de chance d'avoir autant de bons compositeurs qui ont pu nous donner cette joie aujourd'hui d'entendre encore toutes ces très belles musiques. Alors, vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez toujours l'émission Au fil des notes. Nous allons entendre maintenant un extrait du Chœur des Hébreux de Nabucco. Et là, j'ai une petite pensée particulière pour mon papa qui adorait ce morceau et que j'entendais, je ne vais pas dire en boucle à la maison, mais en tous les cas, je l'entendais très très souvent et je suis sûre que c'est un morceau qui va donner un peu la chair de poule à beaucoup d'entre nous. On y va, Laurent ? On l'envoie ? Allez, un petit peu de frisson.
Thank you.
Eh bien, on n'a pas entendu les mouches voler, mais presque. Hein. C'était un peu « Sortez vos mouchoirs ce soir ». Un peu d'émotion, Marie, on dirait.
Beaucoup. Et j'ai toujours du mal à m'exprimer lorsque j'entends des choses comme ça. D'ailleurs, quand je vais au concert, je suis incapable d'applaudir à la seconde où les musiques s'arrêtent, contrairement aux autres spectateurs.
Ça demande un temps
Il
de
Il faut du temps pour revenir
reprise.
Sur terre. Oui. Et... Ah. Si toi, c'était ta maman, moi, c'est
mon papa.
Oui. Moi, c'était maman, puisque mes parents étant italiens, maman ne chantait que du Verdi.
Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça, oui, ça relève des... Voilà, bon, voilà. C'est bien, on a une pensée
Absolument.
Pour eux.
Voilà. Oui, exactement.
Mais...
Pourquoi la musique nous traverse, nous-mêmes?
Oui, mais c'est vrai que... Enfin, c'est justement ça, l'intérêt de la musique, c'est qu'en fait, ça éveille en nous tellement de choses, et tellement ça bouscule... Alors, on se dit que c'est quand même des choses qui ont été écrites en 1800, en 1700, et ça arrive à bousculer quand même nos cœurs, nos passés, alors que bon, quelque part, on n'a rien à voir avec cette époque-là, mais bon, ça se véhicule hein, dans les familles,
Tout
dans les...
C'est Tout à fait, et c'est étonnant parce que dans chaque famille, il y a le morceau oui. typique. Chez nous, c'était la sixième de Beethoven, la symphonie pastorale. Comme mon père, mes parents écoutaient très souvent.
Très souvent aussi.
Et puis, il y avait les concertos brandebourgeois également de Bach.
Oui, brandebourgeois de Bach. Ah bah tiens, ça, on en a parlé déjà dans une autre émission.
Voilà, bon, qu'on écoutait effectivement en boucle, à peine le disque était fini, qu'on le remettait. Voilà. C'était encore à l'époque du vinyle. Hein.
Oui, c'est ça, oui. Et moi, c'est pareil, le Nabucco, en fait. Moi, je me souviens, mon papa qui écoutait ça à fond, et c'est comme c'est à fond, avec les chaînes stéréo de l'époque, c'était assez rigolo dans un appartement. On se disait toujours, oh là là, les voisins, ils vont râler. Mais non, ça allait. Quand c'était ça, ils râlaient pas. C'était... Déjà à l'époque, les nuisances sonores. Donc on revient toujours à la même chose, hein, pour en revenir à Verdi et pour en revenir à la musique. Quand on veut faire de la musique, il faut beaucoup, beaucoup de travail. Ça ne se fait pas sans un travail régulier, une force de travail et une détermination. Au-delà du fait qu'on a besoin d'être doué en la matière, il faut pouvoir être capable de donner ce travail, cette force de travail. Et la famille de Verdi et son père notamment étaient conscients qu'il fallait lui donner une formation bien plus sérieuse que celle qu'il avait pour le moment. Et donc son père a décidé de confier Verdi à Antonio Barezzi, qui était lui un musicien amateur, directeur de l'association philharmonique locale de la ville voisine de Busseto. Donc ce n'était pas non plus quelqu'un de grandiose dans le domaine. Et puis là-bas, il va y vivre de dures années d'études. Ça va être très difficile pour lui, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup d'intransigeance. Et ce monsieur, donc Antonio Barezzi, va donc prendre en pension Verdi. Et puis à 16 ans, sa réputation a déjà franchi Busseto. Verdi va donc commencer à composer. Déjà, 16 ans, petit génie quand même. Hein. En 1828, Verdi compose et adapte pour la Société de musique de Busseto, entre autres, une ouverture, alors là, excusez-moi du peu, pour le Barbier de Séville de Rossini, et une sinfonia qui sont jouées au théâtre de Busseto.
À la suite de quoi, donc, et toujours dans l'idée de perfectionner sa formation musicale, En décembre 31, donc, son père, le père de Giuseppe Verdi, fait une demande de bourse pour qu'il puisse justement continuer ses études.
Déjà à l'époque, c'était un
déjà,
problème.
C'était déjà un problème. Nous qui sommes parents d'enfants, on sait ce que c'est que les bourses. Et le voilà donc parti à Milan avec une bourse annuelle de 300 lire sur une durée de 4 ans, qui lui est donc accordé en 1832, mais qui ne prend effet malheureusement qu'au 1er novembre.
Ah ben là aussi, c'est marrant, hein, c'est la même chose déjà.
Oui, c'est pareil.
C'est drôle, on n'a pas évolué sur ce plan-là.
Les problèmes administratifs.
Il y a 6 mois où on doit mourir, ou voilà, vivre, exactement. Ou survivre.
Et donc là, Antonio Barezzi avance la somme, très gentiment.
C'est gentil.
Et donc Verdi part pour Milan, accompagné de son père, et il prend pension chez le professeur Giuseppe Selletti. Le conservatoire refuse sa candidature. Bon.
Il a eu tort, je pense.
Oui, c'est une erreur. Ils ont dû s'en mordre le doigt après, je pense.
Oui, j'imagine.
Et il suit alors de juin 32 à 1835 les cours particuliers de Vincenzo Lavigna, maître du contrepoint, mais aussi admirateur de Paisiello, Mozart, Haydn et Beethoven, donc oui. Des gens bien, quoi,
bien,
en général.
Quand même.
Et donc, par ce biais, Verdi peut assister aux répétitions de la Scala de Milano.
Il a une vraie chance, en fait, hein, d'avoir été refusé à cette école.
Ben, finalement.
Finalement.
Oui.
Hein, comme quoi, le sort fait qu'on on avance ou pas. Et puis donc, le 16 avril 1836, il épouse Margherita, la fille, devinez de qui ? Eh bien, d'Antoine Baresi. Forcément,
voilà.
Ça, c'était le côté incontournable des choses. Et le 20 avril, le contrat de maître de musique est officiellement signé avec la municipalité de Busseto. En septembre, son maître, Vincenzo Lavigna, meurt. Sa fille, Virginia, naît le 26 mars 1837. Son fils, Isilio, naît le 11 juillet 1838. Et le drame pour Verdi, sa fille Virginia va mourir le 12 août 1838. Alors, en septembre 1838, il est à Milan avec Margherita, au moment où l'empereur Ferdinand Ier d'Autriche se fait sacré roi de Lombardie-Vénétie à la cathédrale. Et en octobre, il adresse au maire de Busseto sa démission du poste de maître de musique. J'imagine qu'à ce moment-là, il est bouleversé, sa vie étant tellement compliquée. Ça nécessite certainement pour lui un break.
Et nous continuons sur 1838, date à laquelle il publie pour la première fois chez Giovanni Canti à Milan un recueil de 6 romances. Aidé financièrement par Antonio Baresi, la famille Verdi s'installe à Milan en février 1839, où il fera ses fameux débuts milanais avec 4 opéras en 5 ans. 1839 Oberto, 1840 Giorno di Regno, 1842 Nabucco, 1843 I Lombardi. À ce propos, Régis, je crois que vous avez une petite anecdote à nous raconter.
Oui, on vient d'entendre le fameux Va Pensiero, le fameux chœur des Hébreux de Nabucco. Et dans ce chœur, il y a un vrai symbole. En effet, ce chœur chante « O mia patria si bella e perduta, o membranza si cara e fatale. » En français, « O ma patrie si belle et perdue, o souvenir si cher et funeste. »
C'est gay.
Et oui, parce que là, pour les Hébreux, effectivement, oui. Prisonniers à Babylone, c'était effectivement une période un peu difficile. Mais voici ce qui s'est passé, en fait, à propos de ce cœur. Ce cœur qui est un peu le symbole de l'unification de l'Italie, ce cœur et cet opéra Nabucco est donné sous la direction de Riccardo Muti le 12 mars 2011 au Teatro dell'Opera di Roma en présence de Giorgio Napolitano, président de la République italienne, et de Silvio Berlusconi, bien connu, président du Conseil à l'occasion du 150e anniversaire de l'unité italienne qui a été célébré donc le 17 mars 1861. Cette représentation de Nabucco et donc de ce chœur Va Pensiero donne lieu à des réactions vives dans la salle.
D'accord.
Au point que Riccardo Muti lui-même réagit et exceptionnellement, tout à fait exceptionnellement, c'est tout à fait inouï d'accorder un bis dans un opéra. Je n'ai vu ça que 2 fois dans ma vie, c'est à cette occasion-là. Et puis également, dans le fameux Freischütz, il y a un chœur qui a été également doublé lors d'une représentation. Ça a été un événement musical incroyable. Donc, Riccardo Muti réagit à son tour sur les réactions de la salle et demande à ce qu'on rechante le Va Pensiero et fait chanter la salle en même temps.
Okay.
Et ça a été extraordinaire. C'était une façon non déguisée de dire tout le bien qu'on pensait de M. Silvio Berlusconi.
Les Italiens ont l'art et la manière de faire passer les choses. D'une façon ou d'une autre. Ça, c'était entendu pour lui, j'imagine. Mais je pense que c'était un immense plaisir aussi pour les gens de pouvoir reprendre ce cœur. C'est une communion aussi, je crois, parce qu'il y a aussi cet esprit.
Enfin, le va pensiero, c'est l'âme même des Italiens, je crois. Hein. On y est tous extrêmement sensibles, je crois.
Alors, revenons à Giuseppe Verdi. Là, Verdi vit la chose la plus terrible qui puisse arriver dans une vie. Il perd son fils, Icilio, qui meurt le 22 octobre 1839. Verdi se consacre à la composition d'opéra. Grâce à l'appui de la cantatrice Giuseppina Streponi, Merelli, le directeur de la Scala, tout en refusant le Lord Allington qui lui est proposé, lui commande un autre projet, Oberto, Conte di San Bonifacio. Oberto, créé à la Scala de Milan le 17 novembre, reçoit un bon succès d'estime avec 14 représentations. La presse est élogieuse. L'opéra est repris à Naples, Turin et Gênes durant les années 1840-1841.
C'est fou comme ça prend de l'ampleur finalement ces opéras. Moi j'ai toujours du mal à accrocher avec l'opéra, je sais pas pourquoi. Quand ce sont des chœurs, ça me plaît. Mais quand c'est de l'individuel, j'arrive pas à accrocher, je sais pas. Enfin, vous qui êtes plus musicien que moi, moi le but de l'émission là, c'est de me faire un peu aimer l'opéra. Donc je vous titille un petit peu de temps en temps là, mais comment on fait pour adhérer à... Parce que c'est pas évident, je veux dire, de...
Je crois que... Enfin, je sais pas ce qu'en pense Marie, mais à mon sens, il faut se donner un petit peu de peine.
Oui.
Je crois.
Tout à fait.
Il faut
pas commencer peut-être par Wagner.
Il faut certainement pas commencer par Wagner.
Voilà. Donc en fait, souvent, on commence pas par la bonne écoute.
Voilà, parce que tout le monde parle de Wagner, qui en soi est une merveille, bien sûr. Wagner, par contre, on aime ou on n'aime pas. Et à l'inverse, je connais peu de gens qui n'aiment pas l'opéra de Verdi. C'est assez curieux.
Oui, Verdi.
Verdi opère un certain consensus.
Mm-hmm. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut peut-être commencer par Verdi. L'opéra.
Ou remonter un peu dans le temps et commencer par les opéras légers de Mozart.
Oui, aussi.
Par exemple, La Flûte Enchantée.
Vous voyez, oui, c'est vrai. Oui.
Qui est un opéra facile d'approche, très très beau.
On a parlé aussi déjà d'ailleurs dans une émission.
Donc en commençant comme ça et en se forçant un petit peu, si je puis me permettre, on rentre effectivement dans l'opéra. Et pour ne rien vous cacher à l'une et à l'autre, j'ai commencé comme ça, à aimer l'opéra. Voilà. Okay.
Mais c'est vrai que peut-être le fait d'être dans des chœurs, comme À Cœur Joie, par exemple, vous avez fait souvent des beaux morceaux d'opéra tous ensemble. Enfin, moi, je vous ai vu à plusieurs reprises. Enfin, je vous voyais régulièrement, un peu moins maintenant, mais fut un temps quand je pouvais, voyais régulièrement. Vous avez quand même aussi donné... Et ça donne envie quand même sur un territoire comme Bourgoin-Jallieu d'avoir déjà une chorale comme ça qui donne une qualité
d'interprétation
à ce niveau. Déjà, je trouve que c'est sympa pour les gens. Ça permet aux petits citoyens qu'on peut être déjà d'avoir une forme d'accroche. Alors après, il faut qu'on arrive à faire plus de communication pour
que
les gens.
C'est une bonne mise en bouche, comme on dit au restaurant.
Tout à fait.
C'est une bonne mise en bouche. C'est le public lambda, ce qui n'a rien de péjoratif, qui ne connaît pas l'opéra, l'approcher comme ça est une bonne façon de rentrer dedans.
On devrait demander aux écoles d'inciter les enfants à aller à un spectacle ou deux par an de chorale,
tout
comme ça, qui reprend des grands airs.
Exactement.
Oui, il existe... Il y avait une chef d'orchestre lyonnaise, Claire Gibault, qui avait fait un petit opéra de la Flûte Enchantée pour les enfants. C'était absolument magique.
Mais déjà emmener un
plus
enfant...
Plus raccourci, en fait.
Déjà donner la possibilité à un enfant d'aller écouter un opéra, c'est déjà lui donner une petite clé d'ouverture quoi vers le classique et vers l'opéra quoi. Et c'est vrai qu'on nous parents on n'a pas forcément si on n'est pas mélomane ou si on n'a pas baigné dans ce dans le chaudron quand on était petit, on n'y va pas spontanément. Donc je trouve que on le lance, on est sur une radio donc on lance l'idée. C'est des choses aussi à faire, ça, donner la possibilité à ces enfants qui sont obligés d'y aller parce qu'ils sont dans le système scolaire. Donc quand on leur donne une sortie comme celle-là, ils sont bien obligés de suivre. Et donc, du coup, bah, après, ils aiment ou ils n'aiment pas. Mais en tous les cas, on a eu le mérite de leur donner un petit peu dans le biberon quelque chose pour se nourrir, quoi. Enfin, bref, j'arrête mes petits côtés idéalistes et sujets dérangeants. Alors, nous allons écouter maintenant dans notre émission Au fil des notes et toujours sur notre super radio Couleur FM 97.1 l'ouverture de La force du destin de Verdi, qui est aussi un morceau absolument sublime. Et je pense qu'on va encore une fois se régaler, mais là, on va se régaler tous ensemble. On écoute tranquillement. Merci, Laurent. Bien, alors là, encore une fois, hein, on fond. Je me souviens, je retrouve cette musique avec des images d'un film de Fellini. Alors, ça me vient plus exactement le titre du film.
Nous chercherons.
On cherchera, ouais, et je ressens encore, je revois les images du film. Je me souviens que ça m'avait vraiment marqué, et c'est vrai que c'est d'une sensibilité à l'extrême, quoi, cette musique. Hein.
Je sais pas, Verdi nous touche tout le temps.
Ah ouais.
Tout le temps.
Il est dans la légèreté.
Que ce soit les chœurs, que ce soit les arias, vraiment, que ce soit les cantatrices ou les chanteurs, c'est toujours très touchant, très touchant.
Il pénètre en nous, on a vraiment l'impression qu'il se permet de rentrer dans nos entrailles. Quoi.
C'est bouleversant au sens propre du terme. Quoi. Voilà.
Tout à fait, oui, c'est ça. C'est bouleversant. Bon, bah, on va se remettre un petit peu, là. Courage, courage, on reprend. Et puis, ben, suite à tout ce que nous avons dit concernant Verdi, eh bien, Merelli commande, lui, 3 nouveaux opéras à Verdi. Bien productif, Verdi, quand même. Hein. Et d'autre part, il entre en relation avec l'éditeur Ricordi. Mais le malheur s'abat encore sur sa famille. Alors vraiment, Verdi, effectivement, a une vie difficile et malchanceuse, on peut dire. Hein. Sa femme, Margherita, hein, son épouse, meurt le 18 juin 1840. Il aura perdu beaucoup, Verdi. Je pense que la sensibilité de sa musique, elle est très certainement due aussi à sa vie, qui a dû d'un petit chat écorché vif en permanence. J'imagine que ça, inconsciemment, ça doit aider dans la sensibilité, si je puis m'exprimer ainsi. Donc Verdi traverse une crise de découragement aggravée par l'insuccès de son opéra bouffe « Un giorno di regno », créé à la Scala le 5 septembre 1840. On peut comprendre hein, qu'il commence à perdre un peu pied, Verdi.
C'est certain.
C'est loin d'être simple quand on se retrouve tout seul. Et en octobre, eh bien, il dirige une reprise d'Oberto à la Scala. Il compose des ajouts et le 9 janvier 1841, il le recrée à Gênes, où il est, selon une de ses lettres à Pietro Mancini du 11 janvier, froidement accueilli. Et visiblement, ça l'a choqué.
Pour autant, il ne se décourage pas et en 1842, Morelli lui propose un livret de Thémistocle Solera, Nabucodonosor. Créé le 9 mars 1842 à la Scala, avec Giuseppina Streponi, déjà en fin de carrière à l'âge de 27 ans.
Bah, d'accord, alors nous on se plaint aujourd'hui à 50 ans d'être mis au rancard, là 27 ans c'est fini.
Oui.
Allez,
oui, oui.
Dodo, 27 ans.
Il faut croire que c'était très sportif à l'époque, puisqu'à 27 ans, les sportifs sont déjà un petit peu en retraite, apparaît-il, certains, en tout cas. Mais bref, déjà en fin de carrière à l'âge de 27 ans, mais qui va néanmoins réaliser des miracles dans le rôle de Abigail. Nabucco est un véritable triomphe. Il reste à l'affiche pour 57 représentations pendant 9 mois, ce qui est énorme. Effectivement,
énorme.
À l'époque, c'est inouï. Le cœur des Hébreux opprimés, qui chantent l'amour de la nation, est évidemment assimilé à la lutte de l'aristocratie et des patriotes italiens contre l'occupation autrichienne. Il faut dire que la période était plutôt trouble.
Trouble, oui. Ça a inspiré, encore une fois, hein, tout ce qui concerne l'histoire, touche forcément la musique classique.
C'est pour ça que Nabucco traverse toute l'histoire italienne jusqu'à nos jours. Ouais. C'est inouï. Bref, Nabucco fait aussi un triomphe à la Fenice de Venise, où il est dirigé par le comte Nanni Mocenigo.
Et là, alors, c'est le triomphe. Hein. Verdi devient célèbre, c'est un peu le petit crapaud qui se transforme en prince charmant. Il est accueilli dans les salons en vue, hein. Il devient un people, si on peut s'exprimer ainsi, hein, le people de cette époque-là, dont celui, entre autres, de la comtesse Clarina Maffei, avec laquelle il se lie d'amitié.
Et il renouvelle le succès avec les Lombards de la première croisade, créé à la Scala le 11 février 1843, malgré l'opposition de l'archevêque de Milan, le cardinal Gaisruck. Verdi devient un homme politique. Ses opéras donnent l'occasion à des manifestations patriotiques.
Voilà, comme quoi, même en classique, on s'engage hein, dans la musique et dans la force de ce que l'on...
Absolument. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui se sont engagés personnellement dans... Non pas dans la politique,
mais dans la
défense des droits, par exemple, des droits de l'homme, ou des choses comme ça. Je pense notamment à des gens comme Yehudi Menuhin, comme Rostropovitch, qui se sont vraiment distingués dans, dans la prise en compte du facteur humain, j'allais dire.
Mmh. Voilà. Ouais, mais parce que de toute façon, la musique, ça véhicule. Aujourd'hui, les chansons, sans parler de classique, les chansons véhiculent les idées et véhiculent aussi une certaine nostalgie, mal-être, tout ce qui ne va tout pas est véhiculé par la chanson et la musique, de toute façon. Donc c'est vrai que c'est une façon de transporter tout cela. Et donc là, Marie, on parle des années galères de Giuseppe Verdi, parce que là, on a l'impression que c'était le chemin tranquille et tout, bien que...
Avec tous ces décès, non.
C'était loin de l'être.
Et là, on aurait pu croire que c'était celle-ci, années galères.
Et là, on nous parle des années galères de Verdi, donc moi, je ne comprends plus bien la part. Vous venez s'expliquer, Marie, là, il y a...
Vraiment, oui, parce que là, il faut vraiment l'expliquer. Les années galères, les succès se sont accumulés et ont fait de Verdi une star. Mais il se doit en conséquence d'assumer ses obligations de star en étant constamment à l'avant-scène, en répondant sans relâche aux sollicitations du public et des impresarios. Il compose comme un forcené. C'est la spirale infernale que connaissent si bien aujourd'hui toutes les vedettes du showbiz. Et c'est ce que Verdi lui-même appellera ses années galères. C'est lui qui a mis en place ce terme des années galères.
C'est incontournable quand on est un bon musicien ou un bon chanteur.
Il a composé 10 opéras en 6 ans. 1844, Hernani et I due Foscari. 1845, Giovanna d'Arco et Alzira. 1846, Attila. 1847, Macbeth, I Masnadieri, Jérusalem. 1848, Le Corsaire. Et 1849, La Bataille de Legnano. C'est pas rien quand même.
Il peut être épuisé, ce brave homme.
Je crois que pour nos auditeurs, quand on dit ça comme ça, c'est difficile de se rendre compte le travail que représente la composition d'un opéra. Il faut composer pour tous les instruments.
Oui.
Tous les pupitres.
Pour les voix.
Les voix. Les solistes, les chœurs. Ouais. C'est monumental.
Un travail de titan.
Quand on voit la partition d'un opéra, quand on l'a sous les yeux, c'est une page avec 50 lignes, 50 portées, toutes différentes, qui s'adressent à chaque pupitre, chaque voix, sachant que dans un chœur, il y a au minimum 4 voix déjà. On compose pour les violons, pour les violoncelles, on compose pour les cuivres, on compose pour les bois, pour les percussions. Et Dieu sait si chez Verdi il y a des percussions.
Oui.
Enfin voilà, c'est monumental. Et quand on voit le nombre d'opéras composés dans ces 10 ans, je me demande comment il a fait.
C'est un génie.
Il faut
quand même
mais
déjà
il a dû travailler jour et nuit. Enfin,
oui, mais au-delà du travail, il faut quand même avoir un fonctionnement intellectuel. Qui capte vite, qui est capable d'entendre, parce que non seulement on écrit, mais quand on compose, j'imagine qu'on entend, on entend la musique de l'intérieur, et par conséquent, on doit tout entendre en même temps, donc il faut tout transposer. Ça demande quand même intellectuellement déjà des capacités qui soient...
Ça me fait penser à un film qui reste très célèbre, c'est Amadeus. Et à la fin de Amadeus, on voit Salieri et Mozart qui composent ensemble, ce qui est absolument faux, hein, d'ailleurs, historiquement parlant, c'est totalement faux, qui composent le fameux Requiem.
Oui.
Et on entend, en même temps que Mozart donne les notes à Salieri pour qu'il les écrive, on entend la musique. Mmh. Eh bien, c'est exactement ça pour le compositeur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il écrit les notes sur la partition,
il entend
ce qu'il compose. J'en suis très très loin.
Ah oui. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut, on nous a dit tout à l'heure. Alors, il paraît, ceci étant, qu'en 1847, on peut lire dans la Strena Teatrale, la musique de Verdi est devenue indispensable à tout théâtre qui voudrait remplir sa salle. Et le prestige d'une première donne du lustre au programme. ça veut tout dire quand même de ce que représente Verdi.
Si vous voulez remplir la salle, vous faites du Verdi.
Voilà, vous êtes sûr que
c'est exactement ça.
C'était déjà du business. Hein. Là, déjà à l'époque, business is business. Hein. On remplit les salles,
il faut remplir.
On n'a pas beaucoup évolué dans ce domaine finalement. Hein. Si le compositeur est peut-être philanthrope, ceux qui l'entourent ne le sont pas.
Non.
Oui, je suis pas gentille de dire ça, mais c'est pas grave. Je vois Marie qui hoche la tête.
Il faut croire donc que ça lui donne une gloire vraiment incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, les Italiens, dont une bonne partie du pays est morcelée et occupée par l'Autriche, les Italiens se reconnaissent dans le Va Pensiero, le cœur des esclaves chantant leur liberté perdue. Verdi devient donc, un peu par hasard, le chantre de l'unité italienne. Il ne l'a pas choisi, mais il va vraiment l'assumer. C'est tout à fait remarquable comme attitude. Il ne demandait rien et finalement il assume.
Il a tout donné.
Et la plupart de ses opéras suivants seront des opéras patriotiques. I Lombardi, Hernani, Giovanna d'Arco, Attila, La Battaglia di Legnano, etc. Verdi arrive début janvier 1849 à Rome et le 27 a lieu la première de son opéra patriotique, La Bataille de Legnano. Impossible de trouver des places quand on sait que le peuple avait voulu assister de force à la répétition. C'est incroyable, ça. Hein. C'est incroyable. Ça,
les Italiens sont des gens déterminés. Et quand ils veulent quelque chose, ils l'ont.
Oui, ça m'est rarement arrivé dans ma carrière de petit choriste.
Ah bon, il n'y a personne qui a osé, qui a voulu s'imposer pendant ta répétition.
Exactement. Dès le chœur d'ouverture, les acclamations « Viva Verdi » éclatent dans un tumulte général. C'est vrai que la musique était alors le meilleur moyen de défier les autorités. Un Italien ne pouvait pas circuler dans les rues en déclamant un libelle ou un pamphlet, mais il pouvait chanter. Et Dieu sait si les Italiens savent chanter,
tout à fait. Mais bon, là encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est un vrai moyen de communication, le chant et la musique. Hein.
Oui, absolument.
Ça véhicule des tas de choses.
Ça véhicule des tas de non-dits, en
plus.
Oui, aussi. Se reporter à l'anecdote avec Riccardo Muti, par exemple.
Et donc, les patriotes italiens vont alors utiliser le nom de Giuseppe Verdi pour affirmer leur soutien au roi, en inscrivant sur les murs le graffiti « Viva Verdi », qui signifiait en réalité « Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia ».« Vive Victor Emmanuel, roi d'Italie ».
Et oui. Ça, je dois vous avouer que je l'ai encore vu il y a quelques années en arrière sur les murs en Italie.
En Italie, oui.
Tracé à la craie. Donc, vous voyez, il y en a encore qui pensent à la royauté italienne. Bien.
Là, ils sont mal partis.
Oui,
Sconi et compagnie.
Alors, en 1847, Giuseppe Verdi part à Londres pour la création de I Masnadieri, puis s'établit à Paris, à l'origine pour la transformation d'I Lombardi en Jérusalem. Mais amoureux de Giuseppina Streponi, vous vous souvenez, cette fameuse chanteuse d'opéra, qui y enseigne le chant depuis un an. Il s'installe chez elle et y restera environ 2 ans, avec quelques voyages en Italie, particulièrement à Milan, quand il apprend l'insurrection en 1848. Ils reviendront tous deux vivre à Busseto en juillet 1849, mais ne se marieront qu'en 1859. En mai 1848, Verdi a acheté les premières parcelles de son domaine de Santa Gata, qu'il ne cessera d'agrandir par la suite.
Vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez l'émission Au fil des notes. Nous allons entendre maintenant un extrait de L'Ibiamo, de La Traviata, extrait et chanté par John Sutherland et Luciano Pavarotti, rien que ça, il paraît que c'est le summum. C'est cela, Régis.
Incontestablement.
C'est ça, Marie. Hein, voilà.
Incontestablement. Donc, j'ai toujours rêvé d'avoir la voix de Pavarotti. Bon, je crois qu'il faut que je me fasse une raison.
Voilà. Tu demandes pour le Père Noël l'année prochaine, peut-être
oui,
que tu...
Peut-être, peut-être. Il va falloir qu'il fasse de gros efforts.
Oui, hein. Et toi aussi, il va falloir que tu travailles jour et nuit comme Verdi. Oui. Eh bien, écoutez, on va se faire un petit plaisir encore. Hein. C'est une soirée plaisir aujourd'hui. Hein. C'est un moment plaisir dans cette émission avec des extraits fantastiques.
Ça me rappelle de très bons souvenirs, ce L'Ibiamo, parce que je l'ai chanté.
Aussi. Oui. Bon, mais oui, mais tu en as chanté beaucoup hein, aussi, Régis. Là, ça commence à...
Ça commence à bien faire.
Viviamo negli eti carici che bellezza infiora, e là fuggevo, fuggevo l'ora, s'inebria voluta, liviane i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possedeva. Viviamo, amore, amore, fra i codici più caldi baci avrà.
Alors Régis, vous vouliez nous dire quelques mots sur la Traviata ?
Oui, parce que la Traviata a inspiré beaucoup de compositeurs à travers les siècles, après Verdi, et même aujourd'hui, encore tout à fait récemment, il y a dans la Traviata le fameux air de Violetta, Addio del Passato, qui sincèrement me bouleverse et me déchire le cœur chaque fois que je l'entends. Et on va l'écouter ici, interprété par... Angela Gheorghiu.
Allez, bah Régis, je vais vous déchirer de nouveau le cœur. Et sur Couleur FM 97.1, dans l'émission Au fil des notes, on déchire les cœurs. Et nous allons donc écouter ce merveilleux passage.
Teneste la promessa, la disfida è per l'uomo. Barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, portate un avvenire.
Ma il dottore
Alors là, on sent la performance vocale. Hein.
Et donc cet air, ce fameux air Addio del Passato, superbement interprété ici, et j'ai également un autre souvenir avec La Callas, qui est tout aussi époustouflant. Cet air a été, en quelque sorte, remixé pour Barbara Streisand. C'est assez curieux, mais effectivement, dans la comédie musicale Cats,
bien connue,
elle chante l'air qui s'appellera donc dans la comédie musicale Memory. Et cet air a fait vraiment le tour du monde, et tout le monde le connaît. Écoutez, et vous verrez l'étonnante ressemblance avec Addio del Passato et Memory.
Alors Marie, on est en 1849 et on dit de Verdi qu'il est dans ses années de la maturité.
Oui, en effet, il compose 8 opéras en presque 10 ans. De cette période de maturité date en particulier ce qu'on appelle sa trilogie populaire Rigoletto, Trovatore et Traviata. Il y a aussi l'art du grand opéra, 4 opéras en 14 ans, le bal masqué, la force du destin, dont Carlos et le fameux Aïda.
Oui, Aïda. Célèbre parmi les célèbres. En 1862, il se rend à Saint-Pétersbourg pour y faire jouer la force du destin. Et puis Verdi se consacre jusqu'à 1870, à la plus grande partie de son temps, à composer pour l'Opéra de Paris. Un bal masqué, Don Carlo, etc. À cette époque, deux noms se détachent sur les scènes européennes, Wagner et Verdi, bien entendu. La collaboration s'avéra parfois très difficile. Fatigué, il s'absorbe alors dans des activités agricoles dans sa ferme de Sant'Agata. Mais en 1871, il crée au Caire Aïda pour l'inauguration du canal de Suez.
Grand moment.
Triomphe absolu.
Alors en 1872, après ce triomphe, à la mort de Manzoni, grand écrivain italien, il compose un requiem à sa mémoire. Exécuté le 22 mai 1874 à Milan, c'est immédiatement un triomphe à travers l'Europe. Donc nous allons l'écouter, vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez l'émission Au fil des notes. Nous écoutons un extrait du Requiem Dies Irae. Et pour vous, Régis, vous considérez cette composition comme le sommet de la musique, m'avez-vous dit?
Ah oui, c'est... Je crois que symboliser la mort de cette façon-là, c'est tout à fait étonnant. Je crois qu'il faut écouter le rythme de ce morceau. Je vais faire court, hein. Mais il faut écouter le rythme et tout est en contrebalancement, en fait. Hein. On est à contre-temps constamment entre les chanteurs et l'orchestre. C'est tout à fait étonnant. Et c'est voulu. Et oui, hein, c'est bouleversant au sens propre du terme. Hein. Donc nous sommes maintenant, toujours avec Verdi bien sûr, la collaboration avec Arrigo Boito, deux opéras en 21 ans, Othello et Falstaff.
Et puis le 27 janvier 1901, Giuseppe Verdi meurt à Milan. Il a, pour ses funérailles, il a ordonné qu'elles soient très modestes et qu'elles aient lieu au lever du jour ou à l'Ave Maria du soir, sans chant ni musique. Deux prêtres suffiront, deux cierges et une croix. C'est tout à son honneur, bien entendu.
Le peuple italien, s'il respectait la volonté de Verdi, veut pourtant maintenant le saluer d'un témoignage à la mesure de son deuil et de sa vénération.
C'est ainsi que 30 jours après la mort du musicien, les deux corps sont transportés dans un char monumental. La foule est immense, plus de 300 000 personnes suivent le cortège qui se met en route accompagné de 900 choristes. Et les choristes chantent le fameux Va Pensiero de Nabucco.
Magnifique. Mais Giuseppe Verdi a non seulement été un compositeur de génie, mais un homme de cœur. Il a fait construire la Casa di Riposo per Musisti, maison de retraite des musiciens, à l'intention des artistes qui ont consacré leur vie à l'art musical et qui se trouvent en difficulté.
Selon la volonté de Verdi, les premiers hôtes n'accéderont à la maison de retraite qu'après sa mort, survenue en 1901, afin qu'ils ne se sentent pas dans l'obligation de le remercier.
Eh bien voilà, il nous faut refermer cette émission sur Verdi. Il aura passé à une vitesse affolante comme chaque fois. Et nous aurions bien besoin d'un peu plus d'une heure pour parler de Verdi et des autres. Merci à Régis Boinet qui a eu la gentillesse d'être notre invité aujourd'hui. Merci à toi, à vous Marie-Claine, de nous avoir accompagnés comme d'habitude et de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir Verdi. Je vous laisse le mot de la fin, messieurs, dames.
Eh bien, je dirais simplement que comme Wagner, qui est un autre géant de l'opéra du 19e siècle, Verdi a donné à l'opéra l'expression complète d'une dramaturgie tout à fait originale.
Marie.
Et moi, comme d'habitude, j'adore les citations. Je citerai Miguel de Cervantes. Là où est la musique, il n'y a pas de place pour le mal.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés dans notre émission Au fil des notes sur Couleur FM 97.1. À très bientôt dans une prochaine émission où nous recevrons Nejma Sahraoui, altiste de l'émigrant, qui viendra nous parler de sa carrière et de la façon dont on peut percer dans le monde de la musique. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.